Bonjour à tous, bonjour à tous, Moadim le Simcha. Est-ce que on s'entend tous? Shalom, shalom. Faites-moi juste un signe pour me dire que on s'entend. Et comme ça, on peut y aller. Voilà, j'ai reçu un coucou toi aussi. Tzahraim Tovim. Et Moadim le Simcha. Et voilà, enfin, toutes les formules d'usage possibles et imaginables. C'est bon, super. Alors, on y va. La semaine dernière, nous avons commencé notre étude sur Shir HaShirim, Asher Li Shlomo. Moadim le Simcha. C'est bon, alors on y va. Donc, on a commencé notre étude sur Shir HaShirim, Asher Li Shlomo. On a commencé ça la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a fait une vision d'ensemble de présenter le livre de manière générale. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est de passer sur les 8 chapitres du livre. Essayer de comprendre, en fait, cette fois plus seulement de manière générale, mais de rentrer dans le contenu du livre. Alors évidemment qu'en un seul cours, on n'arrivera pas à faire du verset-verset, et donc je vais être obligé de sélectionner ce qui me semble, d'après ce que j'ai étudié, ce qui me semble être le plus pertinent pour essayer de comprendre le fil conducteur de Shir HaShirim que les Ashkenazim ont pris l'habitude de lire. Donc, j'ai lu chez moi tout seul hier soir. Alors, chez les Ashkenazim, enfin hier après-midi, quoi, avant ce Houdash Lichit. Donc, les Ashkenazim l'ont lu hier. Les Sfaradim, de toute façon, connaissent Shir HaShirim par cœur. Donc, tout va bien. Alors, on va pouvoir y aller. Alors, le cours s'appelle l'histoire de Shir HaShirim avec un grand H. L'histoire avec un grand H. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez voir que dans ce livre, eh bien, on retrace toute l'histoire de l'idéal du peuple juif. Ou consacrer un autre cours. Comment ça, consacrer un autre cours? C'est quoi, ou consacrer un autre cours? Ah, ou consacrer, ou. Ah, tu as écrit ou avec un accent. Donc, ou avec un accent, ça voulait dire le lieu. Tu dis ou bien consacrer un autre cours. Ouais, mais à ce moment-là, si on veut faire du verset-verset, mon ami, il faudrait faire 8 cours. Un cours par chapitre. Et là, ça va être un peu compliqué, parce qu'on est déjà, bien avancé en Pessah. On dédie le cours à la Refoua Shlema de Fortuné Mazal Bat Camille. Amen, Sheela Refoua Shlema. Donc, allons-y. Donc, je parle de l'histoire avec un grand H. L'histoire avec un grand H, pourquoi? Eh bien, parce que vous allez voir que ce livre, Shir HaShirim, avec toutes les introductions qu'on avait déjà pu faire la semaine dernière, eh bien, nous parle de toute l'histoire, pas que du peuple juif d'ailleurs, l'histoire, le projet de l'histoire. Si vous voulez plus d'approfondissement, eh bien vous pouvez relire Shir HaShirim après le cours en le mettant en parallèle avec un autre livre du Rav Kook qui s'appelle Les Ma'alach HaIdeot BeYisrael. Et dans ce livre-là, Les Ma'alach HaIdeot BeYisrael, le Rav Kook fait cette correspondance entre Shir HaShirim et chaque étape de l'histoire. Donc, je ne vais pas citer à chaque fois le livre du Rav Kook. Sachez juste qu'une très, très grande partie de ce que nous allons étudier vient de ce livre-là. Enfin, c'est un livre, c'est un article, si vous voulez, qui existe dans le livre Orot, qui s'appelle « Les Ma'alach Haideot Beisrael ». Alors, je vous propose d'y aller sans plus attendre. Comme on a dit la semaine dernière, eh bien, Shir HaShirim, à la base, c'est un chant d'amour entre un homme et sa femme. Et on a vu que lorsque l'exil a commencé, eh bien qu'on n'était plus capable de dévoiler, si vous voulez, l'intensité de la relation entre un homme et sa femme comme étant l'intensité clairement du vivant avec le Créateur, eh bien on a expliqué de manière parabolique que cette chanson, que ce chant était en fait la relation qui unissait Am Israël, Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'appellera dans le livre de Shir HaShirim à Dod, le bien-aimé, alors que la Knesset Israël sera à Re'aya, c'est-à-dire la bien-aimée. Et donc, eh bien, nous pouvons d'ores et déjà comprendre ce que nous dit le Rav Kook, qu'il y a une dualité entre deux idéotes. Alors, une idéa, on pourrait traduire ça simplement par une idée, par des idéaux, en fait. Il y a deux idéaux qui se chevauchent, qui des fois vont réussir à se retrouver, c'est le but. C'est ce qu'on appelle, dans le langage du Rav Kook, « Aidea Elohit », l'idéal divin, donc en fait le projet de Dieu tel qu'il est pensé là-haut, et en deuxième pan, la idea a leumit, l'idéal national, c'est-à-dire la réalisation ici-bas de ce que fait Amisraël pour réaliser l'idéal de là-haut. Et donc, on va voir que ces deux idéotes se chevauchent. Alors, comment est formé le livre de Shirachim? On a dit on a 8 chapitres. Chaque chapitre vient répondre à une autre partie de l'histoire. D'abord, nous avons le premier chapitre. Le premier chapitre, vous inquiétez pas, on va rentrer dans le texte lui-même. Le premier chapitre est là pour nous présenter l'idéal général. Voilà, le premier chapitre, c'est l'idéal général. Le deuxième chapitre, c'est pour voir quelles sont les entraves à la réalisation de cet idéal, qu'ils viennent de notre part ou les entraves que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se met en place. Ensuite, dans le troisième chapitre, pour baisser la qualité de votre vidéo dans les performances, voilà, je vous invite à suivre ce que dit Ilan. Ensuite, pour ce qui est du troisième chapitre, donc on rentre dans l'histoire du clan Israël, l'histoire humaine. Donc on a le temps du désert, la sortie d'Égypte, jusqu'à la période du roi Salomon. Quatrième chapitre, nous rentrons dans ce qui s'appelle la période du Bait Rishon, toute l'époque du premier temple. Dans le chapitre 5, nous arrivons dans Galout Bavel. Chapitre 6, alors nous sortons de Galout Bavel en emportant également l'influence qu'on lui a donnée à cet exil. Au chapitre 7, on commence à avoir, après le redépart en exil pour cet exil de Rome pratiquement interminable de 1800 ans. Et donc le chapitre 7 nous parle du début de cette sortie du dernier exil. Et enfin le chapitre 8, c'est l'idéal enfin atteint. Ok, donc maintenant qu'on a fait un petit peu un survol d'ensemble des 8 chapitres, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je parle de regarder l'idéal de l'histoire avec un grand H et non pas avec un petit H. D'habitude, alors je ne sais pas si vous m'avez suivi dans certains enseignements plus historiques, dans des guidages en tant que guide, lorsque je guide sur les traces d'Israël ou en Pologne, j'ai reçu de mes maîtres, et parmi eux, d'un d'eux qui s'appelait, qui s'appelle Uriel Feinerman, Shlita, qui nous avait expliqué que lorsqu'on essaye d'enseigner une histoire, particulièrement l'histoire de la Shoah, pour que l'auditeur puisse se retrouver dans ce que tu dis, il faut au maximum, et là je vais voir votre niveau d'anglais incroyable, il faut au maximum être capable de passer de ce qu'on appelle « history » à « his story », c'est-à-dire passer du klal au prat, pour que les choses soient avec une échelle plus accessible à mon niveau. Ça, c'est bien quand on veut expliquer au travers d'exemples qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons faire l'inverse. Pouvez-vous situer un peu le temps? C'est-à-dire, donner des détails. On n'a pas encore, pour l'instant, on a fait une introduction pour l'instant. Donc, je n'ai pas encore donné de détails, c'est normal. Donc, l'objectif maintenant va être de voir l'histoire avec un grand H, de prendre de la hauteur par rapport à notre histoire et d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ok ? Alors allons-y, c'est parti, on y va. Donc je vous invite, j'imagine que vous l'avez déjà fait parce que vous saviez qu'on allait étudier Shir HaShirim, mais si vous pouvez avoir un Shir HaShirim sous les yeux, ça peut aider. Ok ? Grand klal que j'ai reçu du Rav Shaki, c'est que quand on étudie un texte, il vaut mieux avoir le texte. Oui, je sais, c'est révolutionnaire. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la révolution. C'est la folie. Alors, allons-y, c'est parti. Perek Aleph. Shir HaShirim Asher Lishlemo. Ça, on a déjà expliqué. Donc, je vous emmène directement au verset d'Alt. Moshreni Acharecha Narutza. Il y a ici, donc, un idéal, comme je l'ai prononcé, de faire rejoindre la idea à Elohit, l'idéal divin, avec l'idéal léumite, avec l'idéal national. Et donc, on commence tout de suite en disant « Moshreni acharecha ». Celui qui parle, c'est Shlomo, le représentant de la Reaya, le représentant du Am Israël, qui dit « Moshreni, tire-moi acharecha, narutza ». je ne comprends pas, Moshreni ou Narutza ? Eh bien, je veux que tu commences à faire le truc, que toi, Kadosh Baruch Hu, tu commences à me tirer vers toi, et ensuite, ben, je reviendrai vers toi. Mais cette réalité n'est pas que la réalité de Shir HaShirim, c'est la réalité de la Géoula elle-même, telle qu'il est marqué dans le traité de Sanhedrin à la page 97. C'est la même Sheela. Quand on nous dit qu'on va attendre le Mashiach à propos du verset de Habakkuk qui nous dit « Im yitma'amea chakelo » Ça, on connaît la chanson « Afalbi yitma'amea im kolzeo » Ça vient de Habakkuk. Et à ce moment-là, le Talmud nous dit « Ma, mastomeret, oulai, ken oulai, ani mechake ve oulo mechake » C'est-à-dire que c'est moi qui attends, mais lui, il s'en fiche. Ou l'inverse. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que pour l'instant, Dieu ne se dévoile pas. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech commence en disant « Moshreni, je veux que tu me montres que de ton point de vue, c'est le moment. » Et ensuite, je viens. Pas de problème. « Moshreni, venashuva. » Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas digne de cette Géoula. On a l'impression qu'on n'est pas propre, c'est un meilleur terme par rapport au verset qu'on va lire, propre à recevoir ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit ici le texte, dans le Pasuk Hei. Shechora ani venava benot Yerushalayim ka'ale kedar ki'iriyot shelomo. Shechora ani. Ani shechora. Mais c'est ani shechora. Bon, que les choses soient claires, on ne parle pas ici de bien-pensance du 21e siècle, ce n'est pas un livre anti la traite des Noirs, machin, absolument rien. Shrora, hein, à Kavana bronzé. C'est-à-dire quoi, bronzé, pour les concepts de l'époque, celui qui était bronzé, c'est-à-dire celui qui travaillait dans les champs, eh bien, ça montrait une situation sociale, on va dire, moins élevée que celui qui était dans le palais toute la journée. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nos sages nous disent, Shrora ani ba'averot. Shrora ani ba'averot. Yeshli yoter midai averot. Je suis noir de faute. Donc, en tant que noir de faute, comment puis-je espérer avoir le dévoilement ? Aval, certes, je suis noir de faute, aval, nava. Mais au fond de moi, dit Knesset Israël, je ne suis pas sale. En d'autres termes, ici, nous sommes en train de nous donner l'élément essentiel de Afalpi Shechata Israël Hu. Certes, j'ai fauté, mais je reste au plus profond de moi fidèle à mon identité. Ça a été tout le propos du Leil HaSeder, de ramener les gens à leur identité. Shchora ani venava benot Yerushalayim ka'ale kedar ki'iriyot shelomo. Samuni notera et hakeramim karmi sheli lo natarti. Il dit, c'est pas de ma faute. Il dit, Knesset Israël dit, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Samuni notera et akeramim, j'ai dû garder les champs des autres, les vignes des autres. Et donc, Karmicheli, l'onatati. C'est-à-dire, je me suis occupé des nations du monde. Je me suis occupé d'aller essayer d'influencer chez eux. Donc, forcément, j'ai pas pu m'occuper de moi. C'est pas de ma faute. Mais là, nous retrouvons au balbutiement de l'identité d'Israël deux options pour propager l'idéal de la famille hébraïque. Je le répète, l'idéal de la famille hébraïque, c'est de dévoiler Dieu. Eh bien, dès le début des balbutiements de cette famille, nous avons deux options. L'option abrahamique, Abraham, et l'option de son frère, Nahor. Abraham va se retirer du monde, c'est-à-dire va s'écarter, se détacher des autres nations, en faisant même la Brit Mila. Il se détache même physiquement du reste du monde, alors que Nahor embrasse la cause araméenne, va vivre à Haran, et va faire en sorte que ses enfants deviennent des Araméens. C'est le fameux Lavan dont on a parlé dans la Haggadah, qui n'est autre que le petit-fils de Nahor. En d'autres termes, Lavan, c'est le petit-neveu d'Abraham Avinu. Mais il a choisi l'option cosmopolite. C'est-à-dire, je suis chez toi, il n'y a plus de chez moi. En fait, il n'y a plus d'identité personnelle, nous avons tous la même identité humaine. Seulement, Abraham a un autre moyen de dévoiler son message. C'est justement en montrant que je suis spécifique, j'ai une spécificité, Et c'est grâce à cela, je peux annoncer l'alphabet. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait Dalet, Hey, Vav, 4, 5 et 6 du chapitre 1. OK ? Abraham, lui, est dans cette optique que c'est parce que je montre ma différence que je peux avoir une influence sur l'autre, que l'autre peut aussi me donner quelque chose sans forcément m'annihiler complètement dans mon identité. En d'autres termes, Nahor est devenu cosmopolite. Quant à Abraham, il est devenu universel. C'est ce que dit ici la Réaïa. Samouni notera et akeramim, car Michelin en a tardi. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, donc je suis Shrora. Je ne représente pas du tout ce que je devrais représenter. Mais ce n'est pas intrinsèque. Ce n'est pas inchangeable. Ce n'est pas irréparable. Au contraire. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, tout va bien. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu vient et donne un idéal beaucoup plus profond dans le passouk numéro 8. Nous dit la Dode, le Dode, nous dit le bien-aimé Akadosh Baruch Hu, répond. Il dit, mais je sais. Je le sais très bien. Mais je sais très bien que tu es la plus belle. Je sais très bien qu'au fond de toi, et d'ailleurs je ne regarde pas tes averot. C'est pas ça qui m'intéresse là maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse, Aderaba, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Tseilach. Beikve Atson. Voilà, tout le projet est donné. Tseilach Beikve Atson. Mazé Ikve Atson. Eh bien, tout simplement, vous nous dire, nos sages, que Ikve Atson, dans le Yalkut Shimoni, il s'agit de Ikveta Dimshicha. Dans la génération du Mashiach, alors tu pourras enfin sortir. Sortir de ces complexes de l'exil. Car tu es pour moi la plus belle d'entre toutes les femmes. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais il est possible, et très vrai d'ailleurs, que tu es pleine de boue, pleine d'averot. Avale-moi, je sais ce qu'il y a en dessous de la boue. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, Al Tidagi, moi, je t'attends. À ce moment-là, Knesset Israël peut aussi dire à quel point il attend cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. On commence tout de suite. Et on te dit, Yishakeni au tout début, je reviens au tout début de Shir HaShirim, lorsqu'on nous dit Yishakeni bineshikot piyu, tout début de Shir HaShirim, après Shir HaShirim, Asher Lishlomo, Yishakeni bineshikot piyu, nous dit Chazal, comment c'est Yishakeni bineshikot piyu, Neshika, c'est un contact rapide, c'est un contact cholef, c'est un contact qui est très intense, extrêmement intense. Aval, extrêmement succinct, extrêmement rapide. Nous dit Razal, Mazei Shakeni Minishikot Piyuz et Mahamad Arsinaï. Mahamad Arsinaï, Dieu s'est dévoilé à nous, moi, Anochi, Veloi Elecha, on a entendu, Mipia Gvura, les deux premiers commandements. Et puis voilà, après c'est parti. Après on a envoyé Moshe. Et la réaïa, après que Dieu lui ait répondu, mais t'inquiète pas, moi je t'attendrai. Alors la réaïa peut dire, Atcha meler bim sibo nidri natan recho. Au passouk numéro 12, la réaïa nous dit, Atcha meler natan recho. C'est-à-dire, Dieu s'est dévoilé à moi. Moi je lui ai fait un truc à l'envers. Cheta Egel, nous dit Srazal. Chet Ha'Egel, j'ai montré, je suis comme dit Razal, une kala qui a trompé son mari sous la choupa. C'est un test. C'est un test pour voir à quel point mon mari m'aime. Je vais lui montrer dès le début que je fais n'importe quoi. Est-ce que même lorsque je fais n'importe quoi, eh bien tu es capable de me garder, de me regarder ? Dira Rabbi Shlomo Karlibach que lorsque une femme dans un couple fait une bêtise, X ou Y, vous choisirez la bêtise que vous voulez, eh bien, dirait Shlomo, le mari doit la remercier de faire cette bêtise. Parce que si elle ne faisait pas de bêtise, elle serait un ange. Et si elle était un ange, eh bien, on ne se serait pas rencontrés. Nounou, nounou. À ce moment-là, les bases sont posées. L'idéal sera donc la rencontre. la rencontre entre le Dod et la Réaïa. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on regarde un petit peu Shir HaShirim, et vous connaissez mieux que moi, messieurs Sepharad, Shir HaShirim, c'est une tragédie pas grecque, une tragédie tout court. Car on est dans une espérance perpétuelle d'un contact, et on verra au fur et à mesure du livre qu'il n'y a pratiquement pas de contact. Que à chaque fois que lui, il est là, elle n'est pas là, que elle est là, il n'est pas là, on se rate. On se rate. Est-ce qu'on va se rater la Netzach ? Vous n'irez. Nous avons dit, nous avons présenté l'idéal général dans le chapitre 1, c'est-à-dire l'idéal de la rencontre, et que du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, rien ne peut faire obstacle au final à cette rencontre. Et il faut simplement que Knesset Israël prenne conscience que rien ne peut faire obstacle à cette rencontre. Et nous arrivons donc au chapitre 2, au chapitre bête de Shir HaShirim. Au verset « Hey !» Samechuni be'ashishot redefuni betapuchim ki cholat ahava ani. Je suis malade d'amour. Et non, je ne vais pas m'essayer à la chanson française. Car je pourrais vous dire que je suis malade, complètement malade. Bon, je pourrais faire ça, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que voilà, hein, chacun son métier. Mais, malade d'amour. Oui, la maladie d'amour. Oui, c'est une autre chose. Ouais, bon, d'accord. Ce n'est pas bien d'être malade d'amour. C'est terrible d'être malade d'amour. L'amour est censé être quelque chose qui est sain, qui nous amène la vie. Si cet amour me rend malade, c'est qu'il y a un problème. Tout au long de Shir HaShirim, Areaya, c'est-à-dire Knesset Israël, sera malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Mais évidemment, imaginez-vous quelqu'un qui est... Ouais, c'est parce que tu ne m'as pas entendu chanter la fin de la chanson. Mais en tout cas, vous imaginez quelqu'un qui aurait trouvé sa bien-aimée. Si elle va aimer, c'est la brioute. En tout cas, les amis, de quoi parlons-nous ici ? De quoi parlons-nous ? Si je suis malade d'amour, imaginez, j'ai trouvé mon bien-aimé, mais il n'est jamais là, j'arrive jamais à le voir. Je ne vois qu'à travers un écran. Mais il y a de quoi être malade. Et effectivement, c'est de cela qu'on parle. La relation commence par Cholat Ahava Ani. Noaz Mala Asot. Pourquoi est-ce que je suis Cholat Ahava ? Je suis Cholat Ahava parce qu'il y a pour l'instant une disharmonie entre l'idéal, c'est-à-dire la rencontre, et la réalité. Où j'essaye, mais j'essaye mal. Où j'essaye, mais pas comme il faut. C'est pour ça que directement, au Passouk Zayn, au Passouk 7, on dit « J'bati etrem benot Yerushalayim, bitzvaot ou be'ayalot asade im ta'iru ve'im ta'oreru et ta'avat cheterpatz. » On va trouver pour la première fois ici, et ça va revenir trois fois dans le Shir HaShirim, une akbala, une comparaison entre notre relation avec Dieu et Tzvi ve'ayal. Tzvi ve'ayal, c'est respectivement le cerf et ayal, c'est le bélier ou la femelle du bélier, ayala. De quoi parlons-nous ici ? Tzvi ve'ayal. Deux secondes, j'aimerais qu'on reste deux secondes là-dessus. Parce que tant ici, dans notre verset, on nous parle dans le verset Zayin, je battais très bien sur Jérusalem, que Tzvaot me ve'ayalot asadeh, mais on se rendra compte que Akadosh Baruch Hu est également assimilé à cette dimension de Tzvi. On nous dit « Domé dodi les Tzvi au leur offert à Ayalim ». Donc, on est ici complètement dans le thème. De la même façon, la Réaïa, Am Israël, sera comparée à « Shnei Shadair ki Shnei Ofarim Tohamet Tzviya ». Donc, on est comparé, et nous et Akadosh Baruch Hu, à cette dimension de Tzvi ve'ayal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Il reviendra dans pratiquement tous les chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on regarde la Torah, eh bien, vous savez que dans la Torah, il y a des aliments qui sont mangeables et des aliments qui ne sont pas mangeables. Kasher, pas kasher. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est kasher ? Eh bien, ça veut dire que je peux, là-bas, je peux dévoiler la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire pas kasher ? Ça veut dire que je ne peux pas y dévoiler la Kedusha. Jusque-là, pas shoot. Sauf que dans les animaux cachers, il y en a que je peux amener sur le Mizbeach. Alors, on y reviendra aux trois serments. Oui, oui, tu as raison. Deux secondes. On y reviendra aux trois serments. Donc, évidemment, lorsque je parle d'animaux cachers, il y en a qui sont amenables sur le Mizbeach, c'est-à-dire qui sont corbanables, qui sont potentiellement acceptables en tant que sacrifice. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des animaux qui ne montent pas sur le Mizbeach. Parmi eux, et ceux qui sont donnés comme exemple dans la Torah, Zetzvi ve'ayal. La Torah nous dira même, donc, dans le livre de Dvarim, que lorsque HaKadosh Baruch Hu l'achrive et hakvulot, c'est-à-dire qu'on sera plus loin et machin, alors on pourra manger même une vache en dehors du Mikdash, et on pourra lui faire la shrita comme on pouvait le faire au Tzvi ve'ayal, qui n'était pas forcément abattu au Bet HaMikdash. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on peut amener un animal, qu'on peut amener à manger un animal sans l'amener au Bet HaMikdash. C'est-à-dire qu'il y a une Gdusha michutz la makom shel hamifgash. Il y a une dimension de sainteté, mais qui n'est pas à l'endroit de la rencontre. C'est-à-dire que je me rattache à quelque chose de divin, mais pas comme il faut, pas au bon endroit. Il me manque quelque chose. Il y a cette dimension de Gdusha bachutz. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on va faire une shrita de ces animaux-là, eh bien, on devra faire kissou yadam. On devra recouvrir le sang de ces animaux pour nous dire qu'il y a une dimension où on n'est pas entier avec ce qu'on fait. La kedusha bachutz. Le combat entre la kedusha bifnim et la kedusha de bachutz. C'est un combat fondamental. Est-ce qu'on trouve Akadosh Baruch Hu au Bet HaMidrash ou est-ce qu'on le trouve dans la nature ? Vous voyez ici tout de suite se dessiner deux styles de chapeaux. Vous avez le chapeau du Bet HaMidrash qu'on va appeler le monde Litaï et vous avez le chapeau avec Peot en dessous du monde Chassidi. Vous avez celui qui va daven à la choule et qui pour lui on ne dévoile Akadosh Baruch Hu que dans les daves de Gemara. Et vous avez celui qui va dans la forêt parler à Tate. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk avait l'habitude de dire que les mitnagdim et les chassidim, c'est Gdusha Bifnim et Gdusha Bachut, qu'on appelait Gdushat Yerushalayim par rapport à Gdushat Shiloh. Et il était nécessaire qu'il y ait d'abord 1700 ans de Gdushat Yerushalayim, de mitnagdim, pour bien mettre en place la dimension de Gdusha, le rapport à Dieu, pour finalement arriver à une Gdusha Bachutz. Mais ça veut dire que tant qu'elle est Bachutz, tant que le Chutz est considéré comme Chutz, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle te dit, Chassidim ? Ils te disent en fait, dehors du Bet HaMidrash, c'est aussi le Bet HaMidrash. C'est ça le grand chidouche des Chassidim. Le grand chidouche de la Chassidut, c'est pas de dire, je vais dehors du Bet HaMidrash. Le chidouche des Chassidim, c'est de dire, le Bet HaMidrash, il est dehors. La sainteté du lieu ne fait pas de référence uniquement au Bet HaMikdash. Bien sûr, c'est-à-dire la sainteté de la rencontre est au Bet HaMikdash. Mais est-ce qu'on peut dévoiler à Kadosh Baruch Hu à Filou Michutz HaMikdash ? Oui, à condition que ça vienne du Mikdash. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir cette osmose de Bifnim avant d'être Bachutz. Et c'est pour ça que quand Shir HaShirim commence en nous disant que le problème, c'est qu'on est comparé à Tzvi ve'Ayal, c'est qu'on a commencé par être Bachutz et qu'il fallait commencer à être Bifnim. Notre problème à nous, notre ikouv, notre empêchement, si tu veux, de nous rattacher à Dieu, c'est qu'on a commencé à essayer de le chercher Bachutz au lieu de le chercher Bifnim. Ça, c'est de notre point de vue et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. De son point de vue à Kadosh Baruch Hu, bah, on a un autre problème. L'autre problème d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est qu'il s'en fout. C'est-à-dire que lui, il veut amener la Géoula et il s'en fiche de savoir si on est prêt ou pas. Mais Zema Shekatouv, donc on continue dans notre Shir HaShirim et donc on va arriver au Pasuk Ret. On nous dit Kol Dodi Nezeba Medaleg Aleharim Mekapetz Ala Gevaot. Mazé. Ken Kol Dodi Nezeba. Medaleg Aleharim. Mais Kapetz à la Gevaot, il saute les montagnes, il je sais pas comment on dit en français, il Medaleg, Il enjambe, si vous voulez, les montagnes et il saute au-dessus des vallées. En d'autres termes, il n'y a rien qui pour lui est un empêchement. Il veut se dévoiler, eh ben il se dévoile, point. Le problème, c'est que nous, à ce moment-là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est donc une erreur de dire que la Géoula dépend de la Tchouva. Je vois pas. Maintenant je comprends, par rapport à ce que je viens de dire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une erreur de dire que la Géoula dépend de la Teshuva. Totalement. L'amorote, que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Alors, je vais répondre à Marc dans deux secondes. C'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Pour Rabbi Eliezer, oui, la Géoula dépend de la Teshuva. Pour Rabbi Yehoshua, non. Et la halakha, Baruch Hashem, comme Rabbi Yehoshua. Donc non, la Géoula ne dépend pas de la Teshuva. À quand la Géoula? Baruch Hashem, la Géoula a déjà eu lieu il y a 72 ans. La Géoula a commencé le 5 Iyar Hatashach. Pour nos amis francophones, le 14 mai 1948. La Géoula a commencé à ce moment-là. Elle n'est évidemment pas terminée. Nous avons encore plein d'éléments à dévoiler pour terminer cette Géoula. Et donc, si vous voulez, si je devais faire un mécapète à la Gevaot, je dirais que nous, maintenant, on est au niveau du chapitre 8 de Shir HaShirim. Le problème, c'est que là, j'en suis qu'au 2. Donc, deux secondes. Allons-y. Donc, mécapète à la rime, mécapète à la Gevaot. Donc, lui, à Kadosh Baruch Hu. Donc, nous disent nos sages dans le Yalkut Shimoni que le problème, c'est que nous, des fois, on n'est pas prêts. Ils nous disent que c'est ce qui s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé chez les Zikné Israël. Bamidbar, Zikné Israël. Bemitzraim, en Égypte. Il est arrivé, il a dit, Dieu, il a dit, ça y est, Géoula. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Zikné Israël? Excusez-nous, Moïse. Vous dites, vous appelez Moïse. Très bien. Eh bien, Moïse, vous êtes dans la Moïse. Parce que ça ne marche pas, votre petit jeu. Dieu nous a promis de nous libérer, certes, mais après 400 ans, ça ne fait que 210 ans, c'est trop tôt. Ce n'est donc pas possible que ce soit la Géoula. Mais Dieu, il m'a dit, ah non, d'après nos calculs, c'est pas ça. Bon, bah malheureusement, tous ceux qui ont calculé comme ça, ils sont restés en Égypte. Le coup de Shimoni termine en disant que Bédor à Géoula, ce sera comme ça aussi. Kakadosh Baruch Hu, il dira, je veux vous emmener la Géoula. Et qu'il y a des gens qui diront, non, c'est pas possible, c'est encore la Géoula, parce qu'on n'est pas encore répandu dans toute la terre. On n'a pas encore réussi à amener la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu au Groenland. Il n'y a pas de Beit Rabbah là-bas, donc ça ne peut pas être encore le moment. Le problème, c'est que Kadosh Baruch Hu, il amène la Géoula, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et Nachon, Kadosh Baruch Hu a amené la Géoula à 72 ans. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas contents, parce qu'ils ont dit, ce n'est pas comme ça la Géoula telle que nous, on se l'est représentée. Et voilà, sauf que quand tu es comme ça, ben, Zé Baaya, Baaya Gedola. La reine, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut continuer. Et là, on nous dit que le... Je vais éternuer. Une seconde. Hadak. Donc, à ce moment-là, on continue, donc. Yonati bechagve asela beseter amadrega arieni et maraich. Ashmieni et kolech ki kolech ave arev ou mare nave. Kadosh Baruch Hu, il dit, mais je m'en fous que tu sois prête ou pas. Allez, chante, parce que tu es tellement belle. En d'autres termes, je t'amène la Géoula. Mais la Réaïa, nous, on n'est pas prêts. Achezulanu shu'alim, shu'alim ketanim, mechabelim keramim, mukeramenus madar. Je ne suis pas prête. Il est enregistré, le cours est enregistré. C'est un YouTube live, ce qui veut dire que vous pourrez le retrouver sur YouTube, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc il est intéressé, il est enregistré. Donc la Réaïa, elle dit, je suis pas prête, je peux pas. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Adod Rotze, la Réaïa, elle est pas prête. Tout le reste du livre va être là pour nous expliquer comment la Réaïa, elle se prépare et finalement, ou pas, elle est prête. Alors allons-y. Et nous pouvons rentrer maintenant dans le chapitre 3. Oui, je sais qu'on avance, on avance, on avance. Désolé, mais c'est pour avoir une vision d'ensemble. Et le père Gimel, je vous ai dit, c'est rentrer maintenant dans l'histoire d'Israël. Et nous rentrons avec la période de l'exil, le premier exil, à savoir l'exil d'Égypte. Iné, al mishkavi balelot, bikashti et shava nafshi. Bikashtiv velo matzativ. Mazé al mishkavi balelot, zagalut. Laila, dans la tradition talmudique, dans la tradition d'Israël, c'est l'exil, évidemment. C'est l'exil qui commence alors qu'on est sorti d'Égypte. Nous sommes encore en exil Bamidbar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de rencontre, puisque nous ne sommes pas au bon endroit, comme on a vu tout à l'heure. Akumana, ve'asoveva ba'ir, ba'shevakim, u'ba'rchovot, avaksha et sha'ava nafshi, bikashtiv, ve'lo metzativ. Pas encore la période de Josué. La période du désert. La période du désert. C'est quand on essaye de sortir du désert. Bikashtiv velo matzativ. Il y a eu une période dans le désert, avant la rentrée en Israël, avant Yahushua, une période où on a essayé de sortir du désert et ça n'a pas marché. Bikashtiv velo matzativ. Ça fait référence à ce qu'on appelle les ma'apilim. Ces gens qui ont voulu monter en Israël juste après la faute des explorateurs, qui ont dit « Bon, ok, on a compris, alors on y va !» Moshe leur a dit « Ça ne marchera pas. » Ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est le premier échec. Et donc, une fois que ça n'a pas marché, « Metzaouni ha-shomerim ha-sovevim ba'ir et sha'ava nafshi ve'reitem » Ça n'a pas réussi. Les portes d'Eretz Israël étaient fermées. כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא הרפנו עד שאהבתי ואל בית אמי ואל חדר הורדתי. מה זה חדר הורדתי? זה, נודיס חזל, המשכן. Finalement, on a construit le משכן, במדבר. C'est pas le top, il aurait dû être à Jérusalem, mais c'est déjà quand même un endroit où on peut quand même un peu se rencontrer. Si vous voulez, le משכן, במדבר, c'est rencontrer Dieu par Zoom ou par YouTube Live. C'est pas mal, c'est mieux que quand il n'y a pas de, du tout de rencontre, mais c'est odlosé. Et donc, à ce moment-là, on nous dit « Ishbati etrem benot Yerushalayim bitzvot ubayot asade » encore une fois. « Im teiru ve im teoru et ahava cheterpatz » En d'autres termes, on n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ?« Misot olam min hamidbar » Que Timrot Hashan, Mekuteret mor ulvona, Mikol avkat rochel. Misot, misot. C'est quoi ça? Ben ça y est. La misotola mina midbar, ça y est, c'est Yehoshua. Et c'est le moment où on rentre en Israël. Zéou, ça y est, le mifgash, le premier, est mis en place. Et donc on arrive au top. On arrive au top, on arrive jusqu'au moment de l'idéal de cette rencontre en Eretz Israël avec la construction du Beth Amikdash de Shlomo. C'est ce qu'on nous dit ici. Finalement, on va nous dire, alors je Magdim et Ameucha, comme on dit, Ken, au Pasuk Yudalef, on nous dit comme ça. Tzeena Ureena, Benot Zion, Bemelech Shlomo, Beatara Sheitra Lo, Imo, Beyom Chatunato, ou Beyom Simchat Libo. Ça y est. Shlomo a construit le Beth Amikdash, on y est, on est au top. C'est ce qu'on nous dit dans le verset, alors je reviens, Zayin Yud. Ine mitato shel Shlomo shishim giborim saviv la, mi gibore Israël, kulam achuzei cherev melumedei milchama, ish charbo al yericho. On est bon, mi pachad balelot. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, המודב עשה כסף רפדתו, זהב, מרכבתו ארגמן, תוכו רצוף אהבה. Mibnot Yerushalayim. Zéou, Beth Amikdash. C'est-à-dire que ça y est, on a rencontré Akadosh Baruch Hu, on est au top, tout va bien. Bah, tout va bien. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on risque de tomber dans quelque chose de négatif? Ça y est, on a rencontré Akadosh Baruch Hu, Nachon. Nachon, aval. Shlomo n'est absolument pas le top du top. Parce que si on est au top du top, du vrai top, ben en fait, il n'y a pas de chute après. Le top du top, d'après le judaïsme, quand on essaye d'avancer la Géoula, ça ne marche pas. Ne peut-on pas donc justifier le scepticisme qui pense que le temps n'est pas encore arrivé? Ah, très bonne question. Très bien, très bonne question, Alex. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas légitimer ceux qui disent que la Géoula n'est toujours pas là? Finalement, c'est peut-être qu'on fait la faute des Ma'apilim. Tov, az kacha. La faute des Ma'apilim, elle est que... Il y a deux dimensions. Il y a deux choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle les Béné Ephraïm. ce sont des gens qui sont partis d'Égypte avant que Moshe n'arrive et qui donc n'ont pas réussi. Et il y a les Ma'apilim qui sont donc après la sortie d'Égypte et qui disent, une fois que Dieu a dit « Venez », ils ont dit « Non ». Donc Dieu a dit « Bon, ok, vous serez punis ». Donc ils ont dit « Bon, ok ». On dit « Non, il ne faut pas exagérer ». Là, ce n'est pas une question de « il ne faut pas le faire ». Moshe leur répond à ces Ma'apilim. Il leur dit « Lama atem mamrim et pi Hashem vehi lo titzlach ». Mais c'est « vehi lo titzlach ». Omer, un natif mi Volozhin, le natif de Volozhin, il dit « Et celle-là ne marchera pas, cette tentative que vous allez faire ne marchera pas. » Donc Moshe leur dit « Elle ne marchera pas. » Le natif de Volozhin dit « Hi velo acheret. » C'est-à-dire « Nachon, là maintenant ça ne marchera pas, mais Bedor Ageoula, les rabbins ils diront « Ne montez pas, mais il ne faudra pas les écouter, il faudra monter, et là ça marchera, tu verras. » Donc, les Ma'apilim, ceux qui sont toujours dans l'ambiance de dire « il faut attendre », ce n'est pas les Ma'apilim. C'est les Bnei Ephraim. Donc ça n'a rien à voir. Les Ma'apilim, c'est on leur a dit de venir, ils ont dit non. Et après, ils ont dit bon, ok. Donc ça n'a rien à voir. C'est les mecs, on leur a dit de venir, on leur a dit bon, c'est le moment. Dieu leur a dit c'est le moment, et ils ont dit on n'a pas envie. Donc ça, c'est autre chose. Ce n'est pas les gens qui aujourd'hui disent que ce n'est pas encore le moment. Ceux qui disent que ce n'est pas encore le moment, ils se trompent. Il y a des gens qui te disent Bezrat Hashem, od me'at, le soleil va se lever alors qu'il est déjà midi. C'est un peu dommage. C'est une erreur. Peut-être qu'il faut ouvrir les volets, tout simplement. En tout cas, le top du top dans le judaïsme, c'est quand ça monte, ça monte, ça monte et ça ne redescend pas. Mais quand on parle de Shlomo, on ne peut pas parler du top, parce qu'après Shlomo, tout descend. Quand on regarde le livre de Melachim, bah, oy vavoy, le début de la Hidar Derout, de la chute au Perek Dalet, on arrive au chapitre 4. Regardez. Inach yafa rayatir, inach yafa enayir yonim mibad le tzamater, sa'arer keeder aizim, shegalshu mehar gilad, shinayir keeder ha'ktsuvot she'alu min arsa, shekulam matimot, vekulam en bahem, kechut ha'shani, siftotayich. On commence à dévoiler le contact. Mais ça s'arrête. Tout d'un coup, ça s'arrête. On passe toutes les parties du corps en revue, mais on s'arrête là. Comme si... Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, juste après Shlomo, tout s'effondre. Parce que tu as l'impression qu'avec Shlomo, c'est les paillettes. Mais qu'est-ce qui se passe juste après Shlomo? Juste après la mort de Shlomo, il se passe quelque chose. Iné, on va s'arrêter à un moment donné, comme j'ai dit. Shnei shadayir kishnei ofarim to'amet sevia aroim bashoshanim. Et on s'arrête. On s'arrête, on ne va pas descendre plus bas pour dire que il y a eu une rencontre, mais elle s'est arrêtée. Après Shlomo, on se dit quoi? On voit que tout va mal dans la Mamlacha. Rechavam va amener le pilug, le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, le fils de Shlomo. Et on voit que la première chose que le peuple fait après la mort de Shlomo, c'est de lapider le ministre de l'économie. Alors qu'on avait l'impression qu'avec Shlomo, tout allait bien, paillettes, l'or, l'argent coulait à flot. Nachon, l'or, l'argent coulait à flot, mais au niveau du klal, au niveau du prat, tout allait mal. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans le verset Zayin de Shir HaShirim, « Kulach yafa ra'ayati umum enbach ». C'est-à-dire qu'à l'époque de Shlomo, du Bayit Rishon, on ne prend que le tzad « kulach ». Aklal madim, la folie. Une dimension extraordinaire du klal Israël. Mais au niveau de l'individu, Shvichut Damim, Gilui Arayot, Avodazara. Le meurtre, les relations interdites, l'idolâtrie. Au niveau collectif, Am Israël rayonne dans le monde entier. Au niveau individuel, l'Omashu. Au niveau collectif, on a une économie fantastique. Mais il y a des gens qui quand même meurent de faim. Qu'est-ce qui se passe? Le klal est au top, le prat n'est pas là. Que faire? Lorsqu'on est face à cela, on doit arriver au cinquième chapitre. Le cinquième chapitre, c'est la correction de cela. Galout Bavel. Il est Ani Yeshena Velibi Er. Mazéayin Ani Yeshena, Knesset Israël Yeshena, mais mon cœur est toujours éveillé. C'est Galout Bavel, nous disent nos sages. Pourquoi? Tout simplement parce que Galout, Ani Yoshen, Zelaïla, Melibi Er, parce qu'il y a encore des prophètes. Haggai, Zecharia, Malachi, qui sont encore en activité, si je puis dire, au début de Galout Bavel. Donc, Ani Yeshena, Aval Libi Er, il se passe encore quelque chose. Et à ce moment-là, quoi ? Kol Dodi Dofek. Pendant Galout Bavel, on va corriger tous les problèmes du Prat qu'on avait à l'époque de Shlomo. Vous allez me dire quoi ? 70 ans, ça suffit ? Mais évidemment ! Évidemment ! Puisque pendant toute la période de Shlomo, pendant toute la période du premier Beth Amikdash, pendant 410 ans, et encore plus en fait, pendant presque 500 ans, depuis David si on veut, on s'occupe que de la dimension de l'identité collective d'Israël. On n'a pas le temps de s'occuper de nous. On part en exil maintenant à Babylone. Ben ça y est. On part en exil à Babylone et ben ça y est, on n'est plus là. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dimension collective. Donc maintenant les gens, ils peuvent s'occuper d'eux. Ils n'ont plus que ça à faire. Et donc, ben, ils vont commencer à corriger. C'est un petit peu ce qui nous arrive dans cette période de corona. On n'est plus tout le temps à s'occuper des autres. On ne peut plus être en contact avec tout le monde. Donc, on s'occupe de nous. On commence à corriger nos problèmes à l'intérieur de notre maison. Nachon. À l'intérieur de notre identité. Le bidoud, ce n'est pas un vrai bidoud. Atalo badad. Atal levad. Levad imatzmecha. Et tu commences à réfléchir. Et donc, en 70 ans, on a corrigé tout ça. Et on te dit, Ani Er, j'attends, je somnole, si tu veux. Ve kol dodi dofek. C'est quoi Kol Dodi Dofek ? Ben, c'est la déclaration de Koresh, de Cyrus, roi de Perse, qui permet aux Juifs de rentrer. Idée. Dodi Dofek ! Dieu, il toque à la porte, il dit oh, « Salut, on y va !»« Pitrili achoti rayati yonati tamati shoroshi nimlatal kevutsotai resisel laila » Dieu, il dit « Je veux venir !»« Allez, toc toc, on sort d'exil peut-être, ce serait bien !» Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, la réalité, elle dit, j'ai pas envie. Je suis pas fan de sortir d'exil maintenant. Pas chati et koutanti, au passou guimel. Echacha el bashena, rachatsti et raglai, echacha tanfem. J'ai déjà mis le pyjama, je me suis déjà lavé les pieds. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plancher, donc le sol, c'était le sable. Donc avant d'aller dormir, on se lavait les pieds. Donc j'ai dit, mes pieds sont tout propres, j'ai pas envie de me salir. Ani lo rotza, les Igael. Je ne veux pas de cette Géoula. Et vous allez me dire, oh, comment c'est pas possible? Les amis Raboïsaï, on en est tous là. J'ai vu cette vidéo extraordinaire et je vous la conseille. Je ne saurais pas comment vous la faire partager parce que je suis nul en technologie. Mais il y a cette vidéo extraordinaire d'un, je ne sais pas si c'est le Rosh Yeshiva ou d'un des Rabbanim Pririm de la Yeshiva Université à New York et qui a fait une vidéo incroyable de 2 minutes, ah, 3 minutes, je ne sais pas. Il fond en larmes et il dit des choses incroyables. Je vous invite vraiment à la voir. Elle est magnifique. Elle est en anglais, mais magnifique. Où il dit, mais voilà, pour la première fois, je ne peux pas venir en Israël. Il dit, il commence dans la vidéo en disant, vous savez, je ne suis pas un mec Kotel. Moi, je n'aime pas prier au Kotel. Je n'aime pas, il y a trop de monde, c'est balagan, ça, machin. Et Bémet, Beth Amikdash, ouais, mais non. Moi, je suis bien dans ma yeshiva, tranquille, machin. Il dit, mais là, c'est la première fois. Et là, on a pris conscience, en fait, de à quel point on mentait à Kadosh Baruch Hu. Car il dit, que dit, on trouvait tout le temps des excuses pour ne pas partir en Israël. Je ne peux pas partir, j'ai mon travail. Il dit, ben voilà, maintenant tu es en bidoud, corona, ton travail, ben tu ne peux pas le faire. Donc voilà, ton travail n'est pas si central dans ta vie. Je ne peux pas partir, j'ai ma choule, j'ai ma betneset. Maintenant, ta betneset, elle est zgoura, elle est fermée. Je peux partir, j'ai ma yeshiva, je peux partir, j'ai ma famille. Et là, il dit, maintenant, je voudrais tellement venir en Israël, je ne peux pas. Pour la première fois de l'histoire, je ne peux pas venir. Je ne peux pas, c'est fermé. J'ai tellement envie maintenant. En fait, c'est quoi cette histoire de la Réaïa qui veut pas ? Bémet, elle veut pas. Elle dit, ni la route, c'est les Tanef et Tatsmi. C'est quoi les Tanef, nous dit Razal ? Elle dit, non, je vais revenir en Israël, on va se réoccuper du Klal. J'ai vu où ça nous a amené le Klal. Veut pas. Am Israël veut pas de la Géoula. Ah bon ? Dodi shalach yado minachor, ou me'ay amu alay. Je lui dis, comment ça, mais tu veux pas venir, oui ? Dizrazal, c'est Aman. C'est Bidouk à ce moment-là qu'arrive Aman, qui nous met 2 claques là pour nous dire, il est peut-être temps de te réveiller. Kamtiani, liftoach les dodi. Bon, bah d'accord, ça va, je viens. Patartiani les dodi, veut dire Hamak Avar. J'ai ouvert la porte, je l'ai raté. Kadosh Baruch Hu, il est reparti. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקוני פצוען, בצאוני תנסו את רדידים, מעליי שומרי החומות. פינלמון, באומרה פרמה לפורט, מדינו, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. On est de nouveau dans le même problème. De nouveau dans le même problème que Anichola Tava, parce que je n'arrive pas à avoir ce contact. Je me rends compte maintenant de ce que j'ai perdu. Comme ce rave extraordinaire qui pleure et qui dit mais maintenant je me rends compte, je ne peux pas venir. Et maintenant je me rends compte à quel point ça me manque. Asma. Nous. Asma Doder Midod Ayafa Banashim. Ma Doder Midod Shechacha Ishbaatanu. דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתם פז. זה איך כמתנון כשפה פה. Je veux tellement voir Dieu, mais je peux plus, je suis en galoute. Je commence à rêver Dieu. Je commence à rêver du מפגש. Et je commence à penser que ירושלים של זהב. Incroyable! Incroyable! Lorsque au 19e siècle, les gens commencent à revenir à Jérusalem, on leur dit, vous savez, il y a une chose qu'il ne faut pas faire si vous venez à Jérusalem en visite. Il ne faut pas lire des livres sur Jérusalem. Parce qu'il n'y a rien qui est moins en osmose avec la réalité entre les livres qui parlent de Jérusalem et Jérusalem. Dans la littérature rabbinique, qu'est-ce qu'on parle de Jérusalem ? Yerushalayim shel Zahav, Naomi Shemer, elle n'a rien inventé. Mais quand tu arrivais à Jérusalem à l'époque, on commence à rêver le Mifgash. Top, top, nous, nous, nous. Maintenant, quand on est là-bas pour une période longue, eh bien, nous avons à avoir une influence chez les goïms. C'est le père Ekvav. Dodi yarad legano, l'arugot abbosem, lirot baganim, velilkot shoshanim. Et ça, c'est terrible. Avec sous-titre en français. Quoi, je parle trop en hébreu, il faut me le dire. Il faut me le dire, Ilan. Il n'y a pas de problème. Donc s'il y a des trucs que je dis en hébreu, parce que des fois je fais pas attention, quand je suis lancé, s'il y a des choses qui sont pas claires, dites-le moi, comme ça je peux revenir, hein, avec plaisir. Donc on arrive au chapitre 6, et à ce moment-là on nous rend compte que pendant ce long exil, eh bien on a eu une influence, tant nous, autant qu'individus du peuple juif, tant qu'Akadosh Baruch Hu, en tant que regardant de là-haut. Et on nous dit « Dodi yarad legano, la rugot abbosem, lirot baganim velilkot shoshanim ». Dieu est descendu dans son jardin. Il est descendu dans son jardin et il a pris des fleurs. Nous disent Razal, il a pris des roses. Nous disent Razal que ça, c'est quand Dieu, il prend les tzadikim. Vous imaginez ? C'est ça notre rencontre avec lui ? Quand il prend les tzadikim ? Quand la mort des tzadikim vient, on va dire, faire une capara ? Ah, est-ce qu'il n'y a pas des tzadikim dans, J'en ai pas vu. Mais c'est pas, enfin, je me rappelle pas. J'ai pas vu avec sous-titres. Peut-être qu'il y a, je sais pas. Elle a été virale sur Facebook, donc il choliote que depuis il y a des sous-titres qui ont été mis. En tout cas, Anil et Dodi, Vedodi li, Aroe Bashoshanim. Maintenant, je ne veux pas que ma relation avec Dieu s'arrête uniquement par l'influence des tzadikim. Je veux avoir moi tout entière ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc, une fois qu'on a dit cela, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir cette relation avec lui ? Achati, Yonati, Tamati, Achati, Leima. Reua, Banot, Vayashrua. Malakot, Pilakshim, Vayelalua. Dieu nous dit, Altidagi, 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 certes, j'ai eu plein de relations avec plein d'autres Umot. Et oui, j'ai amené aussi un dévoilement à plein d'autres nations, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un dévoilement partout. Aval, ne t'inquiète pas, pour moi tu restes Achati, Yonati, tu es ma colombe. T'inquiète pas, c'est pas parce que j'ai été donné un petit peu de Kdusha au monde que notre relation n'existe plus, au contraire. Shishim hemma melachot, ushmonim pilakshim, ve'alamot en mispar. Dit Razal, maze shishim hemma melachot, c'est les 60 traités de la Mishnah qu'on a pris avec nous en sortant de Babylone. Les shmonim pilakshim, c'est les shmonim toseftot. Et les olamot en mispar, ce sont les agadot. C'est-à-dire que toute la Torah orale va nous servir de guide pendant cette période d'exil pour revenir à une rencontre. Revenir mamash à une rencontre. כי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברך כחמה איומה כנתגלות, סליחה. Car à la fin du chapitre 6, nous dit à Kadosh Baruch Hu, qui zot ha-shachar, mi zot ha-nishkafa ba-shachar. Shachar nous dit, le Talmud Yerushalmi, c'est la Géoula. C'est-à-dire que voilà, nous dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, allez, il est temps qu'on se rencontre. Et c'est ce qui nous permet d'arriver au chapitre 7. Le chapitre 7 nous dit, ça y est, shuvi, shuvi, ashulamit. Allez, rentre. Allez, rentre. Et enfin, il y a une rencontre. Shuvi, shuvi, ashulamit, c'est quoi? C'est la déclaration Balfour. C'est la première alia, deuxième alia. C'est la ratification à San Remo. C'est le sionisme qui se remet en place. L'Echadodi, Netse Asade, Nalina Bakefarim, Nashkima, Lakeramim, Nireim, Parra, Geffen, Pitach Asmadar, Anetsu Arimonim, Sham Eten et Dodaelach. On va sortir dans les champs. Quel rapport entre la Géoula? On va sortir dans les champs, on va voir si les fruits ont poussé. Et parce que nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin à page 98. C'est ça le signal de la Géoula. Est-ce que la terre d'Israël redonne ses fruits parce qu'il y a plus de yeshivot? Donc viens, on va voir dans les champs. Tu vas voir combien il y a des fruits extraordinaires. Alors ça y est. Donc finalement, il y a eu rencontre, ça y est. Ça fait maintenant 72 ans qu'on se rencontre. Plus par Zoom. Mais attention, c'est une rencontre, mais qui est quand même pas intime. Tu sais, quand tu es avec ta bien-aimée ou ton bien-aimé dans la rue, dans le champ, tu es avec. Mais j'ai pas besoin de vous faire un dessin qu'il n'y a pas véritablement l'union. Car pour l'union, il nous manque le Beth Amikdash. Et c'est ce qu'on arrive dans le Perek Chet. Ishbati etrem benot, dans le chapitre 8. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Matayru, Mateoru et Ahava Tcheterpatz. On a l'impression qu'il y a de nouveau un petit retour en arrière. Bien non. Misotola mina midbar. Re. Mais oui, on est sorti du désert des nations pendant ces 2000 ans d'exil. Et donc on recommence à nous reparler. Kerem aya lishlomo baal amon natan et kerem lentorim ish yavi bepirio elef kesef. Kar micheli lefanai. A elef lar shlomo meatayim lentorim et pirio. C'est enfin, Am Israël dit, ça y est, j'ai une vigne et cette fois, c'est la mienne. Vous vous rappelez de ma vigne de l'époque où j'ai dit, je me suis occupé des autres vignes? Cette fois, j'ai ma vigne et j'y reste. Je commence à m'occuper de ce que je dois m'occuper. Et à ce moment-là, eh bien, enfin, on peut dire, Berach Dodi, c'est vrai. Enfin, je peux dire, Ayoshevet Baganim, Chaverim Makshivim Lekole Hashmieni. Ça y est. Yoshevet Baganim. Il y a la rencontre. On peut reconstruire le Beth Amikdash. Et on aurait dû s'arrêter là. Parce que la rencontre est faite. Seulement, tout d'un coup, le dernier verset. Barach Dodi Udme Lecha Letzvi Ule Ofer Ayalim Ale Rebbe Shamaim. Encore une fois, Dieu nous a... Non. Dieu semble seulement repartir. Mais pourquoi? Pour que cette fois, ce soit lui qui attende qu'on lui dise non, reviens, ça y est, on est prêt. C'est pour ça que Shir HaSherim s'arrête sur ce verset. On a l'impression que Akadosh Baruch Hu repart, mais la tradition d'Israël fait que lorsqu'on termine Shir HaSherim, eh bien on revient sur le verset d'avant et on redit Ayoshev et Baganim, Chaverim, Shkivi, le Koler, Hashmien. Ça y est, nous sommes prêts à la rencontre. Israël, avec ce qu'il a aujourd'hui et le troisième temple, eh bien c'est exactement cela. Nous sommes prêts maintenant à reconstruire le troisième temple. Akadosh Baruch Hu n'attend que notre signal. Pendant 2000 ans d'exil, on attendait son signal. Maintenant, lui attend que nous, on lui dise « Yalla, on construit ». Peut-être que ce sera le premier acte que le gouvernement va dessiner après le déconfinement. « Yalla, on reconstruit le Beth Amikdash ». Qui sait? On ne sait pas. En tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand Chag Sameach. On peut se retrouver demain, dans la grande journée de l'Ilmod. Mon cours, personnellement, je crois qu'il sera, je ne sais plus quand, vers midi, un truc comme ça. En tout cas, voilà. Chazak u Baruch à tout le monde et à bientôt.